Ce qui est frappant pour le lecteur, c'est au fond un découpage différent.
Oui.
Si l'on recueille tout ce que vous venez de dire. Ce qui est frappant, alors ça n'importe qui peut le noter, c'est que effectivement les groupes de mots ne se présentent pas dans l'écrit comme dans le parler. Ça, je pense que n'importe qui admettrait cela.
Oui.
Mais quand on voit l'annotation Queneau, par exemple, je vais me permettre de dire l'annotation Queneau, je crois que ce sera plus simple. Elle représente un troisième découpage. Elle représente un découpage qui est encore plus près de ce que j'avais entendu. Vous précisez ce que j'avais entendu. Lorsque je lis l'exemple que j'avais pris hier, lorsque je lis « à ce qu'on dit », « A-S-Q-O-N-D-I » pour « à ce qu'on dit », je reconnais qu'en effet, j'entends « à ce qu'on dit ».
Oui.
Et si j'avais parlé, j'aurais dit « à ce qu'on dit ». Mais il faut que je vous lise pour le savoir.
Oui, oui.
Mais alors, je constate que dans certains passages, et dans un article que vous aviez écrit en 1937, je crois, vous êtes passé de la langue dite savante à la langue notée pour défendre la thèse de la langue notée contre la langue savante. Et tout d'un coup, on s'y perd. L'esprit a du mal à faire le saut. Autrement dit, le problème de la notation nouvelle de la langue ne peut être résolu qu'après bien du temps.
Oui, c'est assez complexe parce que quand on parle de français parlé, il est bien évident aussi que ce qui est écrit n'est jamais une notation phonographique du langage parlé. C'est du français. Enfin, c'est pour ça, au lieu de français parlé, j'aimerais mieux dire, disons, néo-français ou quelque chose comme ça, mais qui est écrit. Et qui est écrit, et en étant écrit, il devient l'objet et le sujet des mêmes règles et des mêmes, de la même élaboration littéraire qu'une autre langue. C'est-à-dire, il y a aussi bien un style qui s'applique au français parlé ou néo-français qu'au français écrit. Alors, c'est pas uniquement de la phonographie. C'est un autre, si vous voulez, c'est un autre français écrit. Mais c'est un autre français écrit, c'est d'une part un autre français parce que sa syntaxe et son vocabulaire sont très différents, et puis il est traité aussi enfin, d'une façon différente. Mais et la question de l'orthographe, ça, c'est, on ne dirait pas que c'est secondaire. Mais
on se trouve en présence de la nécessité d'une réforme de l'orthographe, de la syntaxe, de la grammaire.
C'est
une réforme d'ordre général.
Oui.
Mais alors, si nous considérons simplement l'orthographe, est-ce que la liberté de cette orthographe vous paraît souhaitable? Que va-t-on abandonner à l'individu dans la notation orthographique?
Ça, il y a une anarchie provisoire, parce qu'on pourrait essayer de noter d'une façon scientifique, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait souhaitable non plus. Enfin, d'une façon immédiate. Alors, il me semble que quelquefois, par exemple, on me dit, c'est une critique qu'on me fait, qui est très valable d'ailleurs, on dit, vous faites des choses en orthographe phonétique, mais ça n'est valable que par rapport au français écrit, au français orthographiquement correct qui l'entoure. L'objection pourrait paraître est très forte, elle est très juste. La seule réponse que je peux y faire, c'est que je vis à une époque où effectivement il y a cette contradiction-là. Je ne peux pas non plus
faire le saut.
Je ne peux pas non plus faire le saut, parce que si j'écris comme ça, s'il y a ce compromis, c'est parce que la vie linguistique de la France, la vie littéraire de la France, est quand même comme ça en ce moment. Alors, je fais comme ça.
La notation actuelle se présente presque comme une mangeure de l'ancienne notation.
Oui, oui.
Là, les termes ont été contractés. Là, il y a une notation nouvelle. Et puis, 7-8 mots qui suivent, je vais avoir des articulations telles que dans le langage écrit. Puis, on ne peut pas tout faire en une fois.
Je ne pense pas, en effet, que ça puisse se faire en une fois, mais il est très possible que progressivement on s'aperçoive enfin, que le français soit aussi lisible sous cet aspect, et qu'au contraire, non seulement il soit aussi lisible, mais qu'on s'aperçoive que soit le français vraiment que tout le monde parle. Parce qu'encore, là, une fois, je n'ai aucune prétention à l'originalité, et c'est pas du tout... Quelquefois, on dit que ce sont des inventions de ma part, mais pas du tout, c'est... Quand j'écris Paul aussi l'a pu, tout le monde dit comme ça. Oui, mais parce que dans l'esprit des personnes qui disent ça, ils s'imaginent qu'ils disent Paul, P-A-U-L, aussi A-U-2-S-I, etc. Mais ce n'est pas vrai. Quand on parle, on ne parle pas avec l'orthographe. Alors, ça a l'air surprenant comme ça, mais en fait, c'est ce que dit tout le monde. C'est le langage vraiment courant. Alors, c'est un peu surprenant écrit comme ça, mais ça... Ça ne devrait pas l'être.
Mais le problème d'une nouvelle notation est extrêmement délicat et assez
oui,
long cependant,
oui.
Car l'idéal serait peut-être une langue en évolution constante, mais il y a bien des obstacles, et de toute manière, il faut une espèce de fixation moyenne qui permette un accord moyen ou un désaccord
oui,
moyen.
Oui, je suis absolument d'accord, mais on peut dire qu'il y a des moments où le saut est nécessaire, parce que le...
Il faut changer de notation.
Il y a un moment où il faut changer de notation, parce que la syntaxe du français actuel n'a plus beaucoup de rapport avec la syntaxe du français écrit. Enfin, que le pluriel se fasse en S, quand on dit anthologie, je lis là anthologie des jeunes auteurs, eh bien, le pluriel ne se fait pas en S. Le pluriel d'auteur, c'est auteur, c'est mettre un Z au début, et de deux, c'est de mettre D. Enfin, tout ça, d'ailleurs, est expliqué fort bien dans tous les ouvrages de linguistique sur l'évolution de la langue française. Alors, il y a une chose qui me paraît aussi notable, c'est le côté agrégatif du français. Enfin, la tendance du français actuel à condenser plusieurs mots, à les dire d'une seule traite. D'ailleurs, le français est une langue qui se prononce très vite. En général, on a tendance à agglomérer les mots et c'est une source de dérivation dans le français moderne. Le français a toujours souffert de ne pas pouvoir dériver des mots. De eau, par exemple, eau, l'eau qui court, l'eau qu'on boit, etc. Et on ne peut pas tirer d'adjectif.
Oui, il faut passer par le latin.
Il faut passer par le latin. C'est quand même un signe de pauvreté dans une langue. Alors maintenant, les commerçants, les industriels, enfin les gens de publicité ont trouvé un mode de dérivation qui est l'agglutination, c'est-à-dire qu'on forme un mot, il y a le vin qui ravit, K-I et R-A-V-I, tous les noms de produits ménagers, par exemple, sont fabriqués comme ça. Ça ne correspond absolument en rien à la syntaxe du français ou au mode de dérivation du français classique.
J'ai souvenir du temps où au lycée, j'étais en quatrième, vous savez, un professeur de français qui entrait dans une colère épouvantable, une colère qui a duré un an, parce qu'il avait trouvé dans une publicité le mot « Mi Studio ». Un fabricant de meubles proposait quelque chose qu'il appelait « Mi Studio », M-I-S-T-U-D-I-O, et qui tenait de la salle à manger, de la chambre, du living room, qui est un terme qui pour résumer l'équipement d'une seule pièce. Alors qu'il est évident que le procédé est tout à fait général maintenant et,
oui,
et admis, et compris.
Et admis et compris. Et alors, dans un sens, pour les personnes qui ont du goût pour la pureté de la langue, et au fond, ça défend la pureté de la langue, puisque la langue française a beaucoup de mal à dériver des mots. Elle a trouvé un moyen de dériver des mots, ben, faudrait s'en féliciter.
Le puriste qui condamne ce néo-vocabulaire de la publicité devrait au contraire se féliciter de la découverte du procédé linguistique publicitaire.
Parce que ça évite comme ça, justement, ces fameux emprunts à l'anglais, enfin, qu'Étienne le condamne enfin, dans son cours en Sorbonne sur le babélien. Pourquoi là, le français emploie...
Pourquoi n'aurait-il pas recours à la langue étrangère?
Alors, ça aussi, évidemment, mais en tout cas, si le français...
Je crois que les meilleurs esprits, vous avez signalé que Fénelon lui-même pensait qu'on peut parfaitement prendre un mot étranger si on en a besoin.
Oui, justement, et c'est que souvent en français, on en a besoin, parce qu'on n'arrive pas à former des mots nouveaux.
Oui, d'ailleurs, les emprunts sont de langue à langue, et le français prête à l'anglais, d'innombrables mots, par conséquent, on ne voit pas pourquoi nous nous préverions d'un recours.
C'est-à-dire qu'on peut bien souhaiter qu'il soit francisé, mais au fond, entre Métinges et Métignes, moi, je n'ai pas de préférence marquée.